Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Françoise Sivignon, candidate aux élections européennes sur la liste Printemps européen, dirigée par Benoît Hamon. Bonsoir.
Bonsoir.
Françoise Sivignon, vous êtes ancienne présidente de Médecins du Monde. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager sur cette liste aux européennes ?
Alors, je crois que l'engagement militant qu'on a dans des associations, et le mien date de 35 ans, donc c'est déjà un engagement assez long, trouve une vraie continuité dans le mouvement que porte Benoît Hamon et que portent les mouvements, les partis politiques de façon générale. On interpelle, on porte des projets, on essaye d'amener du changement social là où il est nécessaire. Donc, il y a une vraie continuité, un vrai socle commun, en fait.
Quels sont pour vous les enjeux de cette élection européenne ? On ira tout à l'heure dans le programme, mais plus globalement, c'est quoi l'enjeu de cette élection ?
Alors, un des enjeux, c'est de véritablement porter la voix des citoyens. Porter cette citoyenneté qui s'est exprimée quelque peu sur le territoire national, mais ailleurs également. Et du coup, porter les besoins et donc les propositions des citoyennes et des citoyens, ça c'est un enjeu colossal. Et on comprend quand on arrive à décortiquer le niveau européen, combien c'est important que les citoyennes et citoyens de notre pays s'approprient le niveau européen. Ça, c'est la première chose. L'enjeu, après, il est évidemment social et écologique. Il est évidemment social et écologique. Voilà. En gros, c'est les trois piliers qui font notre projet aussi.
Alors, vous nous parlez du niveau européen, c'est-à-dire que l'Union européenne joue un rôle dans notre vie quotidienne, sauf que c'est un rôle que nous ne percevons pas toujours. En travaillant aux côtés de Benoît Hamon, vous avez compris à quel point c'était important de voter à ces élections ?
Ah oui, absolument. Même si je suis une grande lectrice des journaux, et puis j'ai par mes antécédents associatifs véritablement découvert le monde et ce qu'il a de meilleur et de pire aussi, je dirais, ça m'a permis de comprendre que c'est bien l'Union européenne qui décide de notre vie quotidienne. Et effectivement, l'articulation entre notre vie quotidienne, que ça soit notre santé, notre bien-être, notre agriculture, notre fiscalité, finalement, tout ça est assez opaque, assez inconnu aux Françaises et aux Français. Et donc, c'était l'enjeu de ces élections. À titre personnel, et je ne suis pas la seule, je trouve que le débat vient tard, il est court, il n'a pas eu le temps d'être posé alors qu'il est absolument essentiel.
Comment vous l'expliquez, justement, qu'on ne soit pas allé sur le fond ? On est un peu allé sur des questions parfois de cuisine politique, d'enjeux nationaux.
De grands débats qui s'étaient tirés très très longtemps, de propositions qui n'arrivaient pas. Donc on a tiré le
grand débat national qui a fait suite à la crise des gilets jaunes.
Social, ouais. Et donc vraiment, ce temps s'est tellement allongé avec des propositions tellement tardives que du coup, les élections européennes ont pris dans l'agenda politique un temps très court. Et je le regrette vraiment. On avait tellement de choses à dire.
L'un des enjeux aussi, c'est le taux de participation. C'est important que les Français s'emparent de cette élection, même s'ils ne se sentent pas concernés.
Oui, d'abord, il aurait fallu qu'ils se sentent concernés. Donc là, il y a un échec quelque peu flagrant de la façon dont les Françaises et les Français ne se sont pas appropriés, ou alors pas suffisamment, on dira, ce débat. Je pense que les responsabilités sont partagées, mais en tout cas, elles sont multiples. C'est tous les 5 ans, hein. C'est tous les 5 ans, c'est à la proportionnelle. Donc véritablement, il y a un moment où ne pas s'en saisir, c'est dramatique pour moi. C'est vraiment dramatique.
Alors justement, vous rappelez que c'est une élection à la proportionnelle, Françoise Sivignon. Qu'est-ce que ça change ? On parle beaucoup de vote utile, de faire barrage au Rassemblement national. Cette élection à un tour à la proportionnelle, ça signifie que concrètement, on peut voter pour la liste qui nous plaît, c'est ce que vous...
Absolument, il faut voter. Et alors vraiment, il faut absolument essayer de dépersonnaliser aussi les débats et de sortir des petites phrases qui reviennent constamment dans le débat public pour aller essentiellement sur le fond. Et la liste que je soutiens, pour laquelle je suis candidate Génération, Printemps européen, puisqu'en fait, nous avons élaboré ce programme pendant un an et demi avec nos partenaires européens, 14 pays, 14 mouvements différents. Donc, il est solide, il a été anticipé et bâti à partir des besoins des populations européennes.
Alors justement, Françoise Sivignon, vous êtes sensible aux questions de santé et d'exclusion. Je rappelle que vous êtes médecin. Le nombre de personnes pauvres et de sans domicile fixe a augmenté ces dernières années dans l'Union européenne. Il y a aussi la question de la santé. Tout le monde n'a pas accès aux soins auxquels nous avons tous accès. Est-ce que c'est le Parlement européen qui est le bon niveau pour imposer à tous les États des mesures de protection sociale et sanitaire pour les plus démunis?
Absolument. On a 3 députés européens, dont l'un s'appelle Monsieur Guillaume Balas. Il a porté relativement loin, même si tout cela n'est pas finalisé, une harmonisation de la protection sociale en Europe. Donc tout ce qu'on cherche, nous, à travers nos engagements, c'est vraiment élever vers le haut les droits des personnes, la protection sociale, les droits des femmes, les droits des populations les plus marginalisées. Donc évidemment, ça peut être un niveau. L'autre sujet donc qui est en lien avec les problématiques de santé, c'est tout ce qui concerne la pollution de l'air, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. J'ai, à titre personnel, découvert l'immensité de ce qu'on peut faire au niveau européen. Et il y a juste une ébauche de tout ça qui a pu être réalisée jusqu'à présent. Donc, il y a un chantier. La pollution, actuellement, en Europe, tue plus que le tabac. Donc, tout ça, ce sont des données objectives, quelque part. Et donc, il faut absolument remettre ça dans l'agenda politique européen.
Alors, c'est Benoît Hamon, le premier, qui avait mis sur l'agenda politique, la question des perturbateurs endocriniens, des pesticides. Aujourd'hui, le sujet est évoqué par tous les candidats.
Je le dis très souvent, enfin, dès la présidentielle, il a eu un programme extraordinairement innovant. Quand on parle du revenu universel, donc tout le lien et toute la transformation que les métiers subissent en ce moment, les perturbateurs endocriniens, c'est un excellent exemple, effectivement. Et moi qui suis médecin, on pourra en parler longtemps, hein, les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre vie quotidienne, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, même dans ce qu'on respire parfois. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire parce que les dégâts et les conséquences en termes de santé sont vraiment très importants. Et elles touchent, les personnes les plus fragiles, les plus jeunes souvent, puisque ça peut débuter dès la grossesse, en fait. Il faut savoir que voilà, ces produits toxiques le sont ou peuvent l'être dès la grossesse.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous que les autres candidats se soient emparés de ce sujet ?
Dans l'absolu, oui. Maintenant, moi, ce que je souhaite vraiment, et on est à quelques jours des élections, c'est que les électrices et les électeurs se rendent compte du côté innovant et de ce qu'on apporte. Et voter pour nous, bien évidemment. On aura besoin de porter ces idées-là au Parlement européen.
Alors, la liste dirigée par Benoît Hamon a mis aussi dans cet agenda européen la question du revenu universel. Est-ce que concrètement, on peut imaginer que ce qui n'a pas été possible en France le soit au niveau européen, un revenu de base pour tout le monde?
Bien sûr, c'est une façon, vous parliez des mal logés, hein, en Europe ils sont 700 000, hein, et adossé à ça, il y a des donc mal logés avec des logements qui ne sont pas isolés, bien évidemment, énergétiquement parlant. Donc le revenu universel, c'était innovant, ça l'est toujours, ça n'est pas mis en place, il y a eu quelques essais en Finlande. C'est une façon de sortir de la pauvreté ou de la très grande pauvreté sans que les personnes aient à quémander en quelque sorte pour des minima sociaux. C'est une façon d'émanciper aussi les personnes, c'est extrêmement important par rapport à une négociation pour un salaire non suffisant vis-à-vis d'un patron, par rapport à un conjoint ou une conjointe avec lequel on ne s'entend plus, donc ça crée un revenu inconditionnel pour tous, c'est absolument essentiel. Ça permet de faire une pause dans une vie professionnelle, pourquoi pas, pour se former, pour de multiples raisons, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, pour avoir accès à ce revenu universel.
Une campagne électorale, ça sert aussi à ça, faire avancer des idées, faire progresser des sujets, même si ils ne seront pas forcément mis en œuvre lors de cette élection.
Alors encore une fois, on souhaite qu'ils soient mis en œuvre parce qu'on était très innovants et on le sera plus tard au Parlement européen. Juste quelque chose qui était aussi porté pendant la présidentielle et qu'on continue à porter, c'est tout ce qui concerne l'épuisement au travail. Il y a plein de secteurs, là il se trouve en ce moment. Ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel, qui doit être, dans certaines conditions évidemment, reconnu comme maladie professionnelle. Il se généralise malheureusement, cet épuisement au travail. Donc ça accompagne les mutations du travail. Donc c'est la raison pour laquelle, pour certains métiers, je pense aux professionnels soignants en ce moment, aux professionnels hospitaliers qui sont en grève. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont épuisées, leurs conditions de travail, les sous-effectifs, les sous-rémunérations.
Vous qui êtes médecin, reconnaître l'épuisement professionnel, ça permettrait concrètement de changer les lois pour obliger les patrons à respecter certaines normes sanitaires ?
Absolument, des normes sanitaires et adosser à ça des conditions de travail qui soient acceptables, en fait. Hein. On a tous, les uns et les autres, des métiers qui changent. Je pense que ça, quand M. Macron dit qu'il faut travailler plus, certainement pas. Certainement pas. Il faut pouvoir profiter d'un bien-être tous ensemble. Et pour ça, le revenu universel, accepter que certains métiers sont plus épuisants que d'autres, tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui comporte très très largement.
Françoise Sivignon, que propose la liste dirigée par Benoît Hamon pour permettre aux migrants d'être traités dignement dans l'Union européenne ?
Alors je commencerai par dire que moi j'étais présidente de Médecins du Monde en 2015, au moment où il y a eu sur le sol européen un nombre conséquent, on va dire, de personnes qui sont arrivées pour des raisons que je dirais tout le monde connaît, mais à la fois qu'on a déjà oublié malheureusement, hein, des crises, des conflits et bien d'autres causes qui sont l'extrême pauvreté par exemple. Alors ce qu'on propose, c'est que 1. L'accueil et la protection soient dignes d'un continent qui est le plus riche au monde. Ça me paraît absolument incontournable. Ce d'autant que il faut être, par rapport à ces questions migratoires, il faut avoir une vision très, très claire et très. Il y a un peu de rationalité à mettre là-dedans et donc des chiffres. La mobilité humaine, elle n'a pas bougé depuis des années. Elle est passée 3% de personnes qui bougent dans le monde à 3,4%. Donc elle n'a pas bougé. Il y a eu une sorte de pic. Soit, là en Europe, entre 2015 et 2018, la réponse, la honte des réponses de l'Union européenne sonne aux oreilles de tous encore, hein, sonne aux oreilles et aux yeux de tous. Hein. On se rappelle le petit garçon donc noyé sur cette plage de Turquie. Mais on l'oublie vite. Et en fait, derrière, il y a des femmes, des hommes et des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui demandent de l'accueil et de la protection. Dans un continent qui a les moyens de les accueillir, tout ça, ça s'organise, bien évidemment. On n'a jamais dit qu'il fallait ouvrir les frontières, encore une fois, mais la dignité de l'homme compte pour nous avant tout le reste. La dignité de l'homme. En sachant que la régulation, ça veut dire une agence européenne indépendante, donc indépendante notamment des ministères de l'Intérieur, qui arrive à organiser ceux qui arrivent et donc ceux qui ont droit à l'asile, les réfugiés en l'occurrence, qui ont droit à une protection. Si on considère la Convention de Genève, voilà, ça s'organise tout simplement. Après, il y a plein de mesures qu'on veut abroger, notamment Dublin III, qui n'a pas permis un accueil équitable.
Françoise Sivignon, en tant que présidente de Médecins du Monde, vous avez voyagé dans le monde entier. Vous avez donc un regard différent aussi sur l'Union européenne. Est-ce que notre continent a un rôle à jouer, je dirais, en termes de valeurs? Est-ce qu'il peut être aussi un continent exemplaire, je dirais, en avance sur les autres, puisque c'est le continent, par exemple, des droits de l'homme ?
Ah oui, je crois qu'on a eu longtemps, en termes de lutte contre les inégalités, hein, l'Europe a été exemplaire, bien sûr, et je trouve que d'avoir perdu ce statut, moi, c'est un désespoir pour moi de voir comment l'Union européenne n'a pas su accueillir ces personnes qui, encore une fois, ne demandent que accueil et protection, et dont on aura à terme besoin, hein, de fait. Hein, si on prend l'exemple de la Hongrie, qui est le pays qui est démographiquement le plus en danger, on va dire ça comme ça. Donc tout ça, c'est juste intégrer le fait, d'abord, que la migration est structurelle, qu'elle existe depuis toujours, donc que c'est une phase à intégrer dans une histoire humaine, et qu'elle doit être digne. Et puis, c'est la défense des droits fondamentaux. On ne peut pas lâcher ça. Ce n'est pas possible. Les droits fondamentaux, c'est les droits sexuels et reproductifs. C'est également des droits, la liberté de la presse. C'est tous ces droits-là. On ne peut pas se permettre une seule faille là-dessus. Parce que quand on commence, on ne sait pas où ça se termine, en fait. Et c'est ça, le danger.
Françoise Sivignon, si vous êtes élue au Parlement européen, est-ce que vous serez attentive à la coopération entre l'Union européenne et les pays du Maghreb ? Je pense notamment à la Tunisie.
Oui, certainement, la Tunisie et d'autres. Hein, on a des liens historiques aussi. Et puis, moi, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins tunisiens qui venaient travailler dans le, en France, qui repartaient pour certains chez eux, pour d'autres qui sont restés. Si on reparle de mobilité, on est dans l'exemple typique de personnes qui professionnellement étaient de très très bons médecins. Certains ont souhaité rentrer chez eux. Oui, la Tunisie, comme d'autres pays du Maghreb, on a des liens forts avec la Tunisie. Après, on pourrait parler de ce qui concerne l'aide publique au développement aussi. Il y en a beaucoup à dire.
Alors Françoise Sivignon, la campagne s'achève. Qu'est-ce que vous avez appris lors des différentes rencontres que vous avez faites lors de cette campagne électorale? Vous avez sillonné la France, vous qui connaissez plutôt le monde entier.
Alors j'ai appris quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Quand on va vers les personnes, le porte-à-porte, les sorties de métro, c'est toujours, c'est pas toujours rose, on va dire ça comme ça, mais c'est plutôt un moment très très intéressant. J'ai appris également ces terrains particuliers. J'étais à Angoulême et Limoges il y a 2 jours, à vrai dire. Et là, on a rencontré à la fois d'une association qui s'occupait des mineurs non accompagnés, donc c'est un secteur que je connais bien, et Dieu sait si ces mineurs ont besoin d'être protégés. On a rencontré aussi tout un pôle image à Angoulême pour les métiers de demain. On a vu des choses absolument fabuleuses, des jeunes gens et des jeunes filles qui étaient très engagés sur ces métiers de demain, hein, autour de l'image. Et puis un agriculteur bio qui nous a expliqué comment on passe d'une agriculture traditionnelle à une agriculture biologique avec un fort volet social. Si on parle de 7 agriculteurs en particulier, il accompagnait vraiment son personnel, il doit être 4 ou 5, avec une forte composante sociale. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment partagé.
Alors, vous parlez d'écologie.
Puis, dernière chose, j'ai découvert aussi des femmes et des hommes politiques de très grande qualité. On a eu des discussions, on a été aussi beaucoup informés sur l'Europe, on avait des fiches, on a été très très accompagnés, ça c'est vraiment agréable.
Alors, vous avez évoqué l'écologie. Est-ce que vous êtes rassurée de voir Nathalie Loiseau s'emparer de ces thèmes? Elle veut faire de l'Europe une puissance verte en investissant 1 000 milliards d'euros pour développer les énergies et les transports propres. Est-ce que vous lui faites confiance? Vous faites confiance à Emmanuel Macron pour transformer l'Europe en Europe verte?
Alors, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il avait l'occasion de le faire depuis un moment, à commencer par le sol français, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà lui reprocher. Si c'est une urgence, et c'est un médecin qui parle, et c'est une urgence, l'urgence écologique, il avait les manettes, voire évidemment les finances, pour mettre en route cette transition écologique. Donc, y a une autre chose que je pense très fortement, c'est que le libéralisme débridé tel qu'il est actuellement en place n'est pas compatible avec une écologie, une transition écologique. Ça, c'est pas possible, parce qu'en fait, ça fait longtemps, encore une fois, que l'Europe, si elle était conçue différemment et financiarisée différemment, se serait saisie de cette question clé.
Françoise Sivignon, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de La République En Marche qui appelle les progressistes à voter pour Nathalie Loiseau pour empêcher le Rassemblement National d'arriver en tête dimanche soir? Est-ce que c'est un argument recevable, vous qui avez lutté contre les thèses de l'extrême droite?
Ah oui, même largement. Non, il y a une alternative, ce sont les forces de gauche et en l'occurrence le mouvement Génération qui... Une fois de plus, on pourrait reboucler sur toutes les innovations qu'on porte, le changement social, la justice fiscale et environnementale. Et non, il y a une autre voie que ces partis qu'on laisse voguer à leurs mesures qui seront de fait libérales, voire ultra-libérales. Et l'autre voie, elle est avec les forces de gauche écologistes. Et c'est cette voie-là qu'il faut choisir le 26 mai, bien évidemment. Et reparlons un peu de transition écologique. Nous, on a travaillé, donc ce que je vous expliquais au tout début de l'entretien, ce qui s'appelle un Green New Deal. Donc c'est un investissement massif pour la transition écologique avec des économistes de renom. 500 milliards d'euros par an, c'est pas négligeable, mais des obligations vertes émises par la Banque européenne d'investissement et garanties par la Banque centrale européenne, ça fonctionne.
Alors, d'après les sondages, la liste dirigée par Benoît Hamon risque de ne pas avoir de députés européens dimanche. Pour autant, vous croyez encore à un sursaut des électeurs de gauche? Tout est encore possible?
Tout est encore possible, absolument. Je pense que Je souhaite vraiment que chacune et chacun prenne le temps de lire ce qu'on propose, de lire ce qu'on propose. Et c'est une proportionnelle. Donc, on a vraiment besoin, un, d'aller voter. Bien évidemment, il faut se mobiliser. Deux, de lire les projets. Parce que ce qu'on porte, c'est l'Europe de demain. Et c'est le monde de demain aussi. Hein. On parle, ce qu'on va décider au niveau européen, ça va largement impacter au-delà des frontières de l'Europe, bien évidemment. Donc, oui, s'approprier le programme, voir que c'est un programme innovant qui porte un vrai changement social.
Merci Françoise Sivignon. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections européennes sur la liste du Printemps européen dirigée par Benoît Hamon. Bonsoir.
Bonsoir à vous.